Chapitre 8 Solitude et soliloque de l'Égyptien, analyse de son caractère. Nous devons revenir un instant sur nos pas dans la marche de notre histoire. À la première lueur de ce jour que Glaucus a déjà marqué d'une pierre blanche, l'Égyptien était assis, seul et sans que le sommeil lui fermait les yeux, au sommet de la haute et pyramidale tour qui surmontait sa maison. Un parapet élevé lui servait de mur et se joignait à la hauteur de l'édifice et aux arbres obscurs qui l'entouraient pour défier les yeux de la curiosité et de l'indiscrétion. Une table sur laquelle était étendu un rouleau chargé de signes mystiques se trouvait devant lui. Au ciel, la lumière des étoiles s'effaçait et vacillait, et les ombres de la nuit abandonnaient le faîte stérile des montagnes. La lutte de la nuit et du jour commençait à être visible sur le large océan, calme comme un lac gigantesque, entouré de rivages couverts de vignes et de feuillages. Ses bords, parsemés de murs blancs, des cités endormies, descendaient doucement vers les vagues à peine ridées. C'était l'heure consacrée entre toutes les autres à la science de l'Égyptien, à cette science qui espérait lire dans les astres le changement de ses destinées. Il avait rempli son rouleau, il avait noté le moment et le signe, et, s'appuyant sur sa main, il s'était livré aux réflexions que lui inspiraient ses calculs. Les étoiles me condamnent de nouveau. Quelque danger me menace assurément, dit-il lentement. Les astres me présentent les mêmes dispositions défavorables qu'elles présentèrent autrefois à Pyrrhus, si nos chroniques ne se trompent pas, à Pyrrhus, né pour désirer toute chose et pour ne jouir d'aucune, attaquant toujours, ne triomphant jamais. Bataille sans fruit, laurier sans victoire, renommée sans succès. La Pyrrhus vaincu enfin par ses propres superstitions et tué comme un chien par une tuile que la main d'une vieille femme avait lancée. Vraiment, les étoiles me flattent peu lorsqu'elles me représentent comme l'image de ce guerrier insensé, lorsqu'elles promettent à l'ardeur de ma sagesse les mêmes résultats qu'à la folie de son ambition. Un perpétuel exercice sans un but certain, la tâche de Sisyphe, la montagne et le rocher. Le rocher, sombre augure, qui me fait souvenir que je suis menacé d'un trépas à peu près pareil à celui de l'épirote. Regardons encore. Prends garde, disent les lumineux prophètes, quand tu passeras sous les anciens toits ou près des murs assiégés ou sous les rochers qui surplombent. Une pierre chargée des malédictions de la destinée roulera d'en haut sur toi. Et le péril ne doit pas être éloigné. Mais je ne puis dire avec certitude le jour et l'heure assignés. Allons, si mon sablier s'épuise, que le sable embrille du moins jusqu'à la fin. Mais cependant, si j'échappe à ce danger, si j'y échappe, le reste de mon existence jettera un éclat doux et brillant comme les rayons de la lune sur les eaux. Avec de telles promesses au-delà du péril, succomberai-je donc au péril? Mon âme est pleine d'espérance. Elle bondit et dépasse l'heure fatale. Elle se réjouit dans l'avenir. Son courage est le meilleur augure pour moi. Au cas où je devrais périr si subitement et si vite, l'ombre de la mort s'étendrait déjà sur elle, et le froid pressentiment de ma destinée me glacerait. Mon âme éprouverait dans la tristesse et dans l'ombre un avant-goût des mystères du terrible Orcus. Mais elle sourit, elle m'annonce ma délivrance. En achevant ce soliloque, l'Égyptien se leva involontairement. Il parcourut rapidement l'étroit espace de cette tour dont les étoiles formaient le toit. Et, s'appuyant sur le parapet, il jeta de nouveau un regard sur les murs gris et mélancoliques. La brise du matin va rafraîchir son front, et son esprit recouvra peu à peu son calme et son recueillement naturel. Il détourna son regard des étoiles à mesure qu'elles disparaissaient les unes après les autres dans les profondeurs du ciel, et ses yeux tombèrent sur l'étendue qui se déroulait à ses pieds. Dans le port de la cité se dressaient en repos les mâts des galères. La tranquillité régnait dans ce séjour de l'opulence et du travail. Quelques rares lumières à travers les colonnes des temples ou les portiques du forum silencieux luttait avec les nuances flottantes et légères du jour naissant. Du cœur de la cité assoupie, qui devait bientôt se remplir de 1000 passions, aucun son ne s'élevait. Les flots de la vie ne circulaient pas encore, le sommeil les recouvrait de sa glace. Le large amphithéâtre, avec ses sièges superposés, semblable à un monstre qui sommeille, était environné d'un brouillard dont la forme s'épaississait en s'approchant des arbres voisins. La ville paraissait ce qu'elle nous paraît après 17 siècles, la cité de la mort. L'océan lui-même, cette mer sereine et sans marée, était presque aussi paisible, si ce n'est que de son sein profond s'exhalait, adouci par la distance, un faible et régulier murmure, comme la respiration de son sommeil. Cette mer embrassant, pour ainsi dire, de ses bras recourbés la terre verte et belle, semblait presser avec volupté les villes qui dormaient sur les bords, Stabie, Herculanum et Pompéi, ses filles chéries des flots. « Vous sommeillez, Stabie !» s'écria l'Égyptien en jetant un regard sinistre sur les cités, l'orgueil et l'ornement de la compagnie. « Vous sommeillez ! Plutôt Dieu que ce fût du sommeil éternel de la mort. Tels que vous êtes, joyaux de la couronne de l'Empire, telles ont été les villes du Nil. Leur grandeur a péri. Elles dorment parmi les ruines. Leurs palais et leurs temples sont devenus des tombes. Le serpent se glisse sous l'herbe de leurs rues. Le lézard habite leurs salles solitaires. Par cette loi mystérieuse de la nature qui humilie l'un pour exalter l'autre, vous vous êtes élevé sur leurs ruines. Toi, orgueilleuse Rome, tu as usurpé la gloire de ces ostrices et de ces miramis. Comme une voleuse, tu t'es revêtue de leurs dépouilles. Et ces villes, esclaves de ton triomphe, que je vois à mes pieds, moi, le dernier fils des monarques oubliés, je les maudis, ces villes, réservoirs de la puissance et de ton luxe qui pénètrent partout. Le temps viendra où l'Égypte sera vengée. Le temps viendra où le coursier du barbare aura son râtelier dans la maison d'or de Néron. Et toi, qui as semé le vent de la tempête, tu recueilliras la moisson de l'ouragan et de la désolation. » Pendant que l'Égyptien prononçait une prédilection que la destinée a accomplie d'une manière si terrible, jamais image de plus sinistre et plus solennel augure ne s'offrit aux rêves du peintre et du poète. Les lueurs du matin, qui communiquent même leur pâleur aux joues de la beauté, donnait en quelque sorte à ses traits majestueux et nobles les couleurs de la tombe. À voir ses cheveux noirs qui retombaient en masse autour de lui, sa robe lugubre, longue et dénouée, ses bras qui l'étendaient du haut de la tour, ses yeux étincelants où perçait sa joie sauvage, on lui dit un homme moitié prophète et moitié démon. Après ce coup d'œil jeté sur la ville et l'océan, il reporta ses regards sur les vignes et sur les prairies de la riche Campanie. La porte et les murs de la ville, anciens et d'une construction semi-pélagienne, ne paraissaient pas en borner l'étendue. Des maisons de campagne, des villages s'élevaient de chaque côté sur les flancs du Vésuve, dont la montée n'était pas alors aussi escarpée ni aussi rapide qu'à présent. Car, de même que Rome elle-même est bâtie sur un volcan éteint, de même et avec une égale sécurité, les habitants du Midi occupaient toute la partie verte et couverte de vignes d'un volcan dont ils croyaient le feu intérieur, désormais en repos. À partir de la porte, on apercevait une longue rue de tombeaux de diverses grandeurs et d'une architecture variée. C'est par là que, de ce côté, on arrive encore à la ville. Au-dessus de toute chose apparaissait le sommet nuageux de la terrible montagne, dont les ombres, plus ou moins noires, découvraient des cavernes tapissées de mousse et des rochers de cendres, attestant les dernières explosions, et qui auraient pu en prophétiser de nouvelles à ses habitants, si les hommes n'étaient pas aveugles. Il eût été difficile de deviner en ce temps et en ce lieu pourquoi les traditions environnantes s'étaient revêtues d'une couleur si sombre, pourquoi dans ces plaines si souriantes, à plusieurs milles à la ronde, de Baïa à Misène, les poètes avaient imaginé de placer le seuil de leurs enfers, leur Achéron et leur Styx fabuleux. Pourquoi dans ces champs phlégréens, alors ornés de joyeux pampres, ils voyaient le théâtre de la bataille des dieux et des géants pour la victoire du ciel, si ce n'est que le sommet nu et aride rappelait à leur esprit les traces de la foudre de Jupiter. Mais ce n'était ni le fait escarpé du volcan paisible, ni la fertilité des campagnes le long des coteaux, ni la mélancolique avenue de tombeaux, ni les délicieuses maisons de plaisance d'un peuple efféminé et voluptueux qui arrêtaient les yeux de l'Égyptien. D'un côté du paysage, le mont Vésuve descendait vers la plaine par un sillon étroit et aride qu'interrompaient çà et là des mamelons dentelés et des broussailles sauvages. Au bas, s'étendait un terrain marécageux et malsain, et l'œil fixe d'Arbacès distinguait une espèce de forme vivante, se baissant de temps à autre pour recueillir quelques plantes grossières qui y croissaient. « Oh, oh !» dit-il tout haut, « je ne suis pas le seul dans cette dure veillée. La magicienne du Vésuve est à l'œuvre. » Étudie-t-elle aussi les astres, comme le vulgaire le pense? A-t-elle jeté un charme sur la lune, ou cueille-t-elle, comme sa position semble l'annoncer, des plantes vénéneuses dans le marais? Regardons bien cette compagne de mon expérience laborieuse. Quiconque essaie d'entreprendre, sait qu'aucun côté de la science n'est méprisable. Il n'y a de méprisable que vous, victimes grasses et bouffies, esclaves de la luxure, fainéants de la pensée, vous qui ne cultivez que le domaine des sens et qui croyez que son pauvre sol produit également le myrte et le laurier. Non, le sage seul est fait pour jouir. À nous seulement la vraie volupté est accordée. Lorsque l'esprit, le cerveau, l'invention, l'expérience, la pensée, le savoir, l'imagination, tout contribue comme autant de sources à former la vaste mer des sens ionnés. » En prononçant ce dernier mot, ce nom plein de charme, Arbacès sentit que ses pensées prenaient un cours plus profond. Il avait fait quelques pas, il s'arrêta, il ne releva pas ses regards. Une ou deux fois, il sourit joyeusement, et quittant cette place où il avait veillé pour se rendre à sa couche, il murmura « Si la mort est si proche, je veux pouvoir dire au moins que j'ai vécu. Ionée sera à moi. » Le caractère d'Arbacès était un de ces tissus rares et inextricables où l'âme elle-même qui réside se trouve embarrassée et confuse. Chez lui, fils d'une dynastie tombée, dépris d'un peuple abattu, régnait cet esprit d'orgueil mécontent qui n'abandonne pas les êtres d'un ordre supérieur lorsqu'ils se sentent bannis inexorablement de la sphère où leurs ancêtres ont brillé, et à laquelle la nature, non moins que la naissance, leur donnait des droits. Cet esprit est dépourvu de bienveillance. Il est en lutte avec la société. Il ne voit que des ennemis dans l'espèce humaine. Mais ce sentiment n'était point accompagné, ici, de sa suivante ordinaire, la pauvreté. Arbacès possédait des richesses égales à celles des plus nobles romains, ce qui le mettait à même de satisfaire des passions qui ne pouvaient trouver d'issue dans les affaires ou dans l'ambition. Voyageant de climats en climats et trouvant Rome partout, il voyait s'accroître de plus en plus sa haine contre la société et son amour pour le plaisir. Le monde était pour lui une vaste prison qui lui était loisible de remplir des ministres de sa volupté. Cette prison, il en pouvait sortir, mais il pouvait lui donner au moins l'apparence d'un palais. Les Égyptiens, dès les premiers temps, s'étaient livrés au plaisir des sens. Arbacès avait hérité de leurs appétits sensuels et de cette vive imagination qui sait faire jaillir la flamme elle-même de la débauche. Mais toujours ardent dans ses plaisirs aussi bien que dans ses études, et ne supportant ni supérieur ni égal, il n'admettait guère à ses orgies d'autres compagnons que des esclaves. Il était le maître solitaire d'un nombreux harem. Et malgré cela, il se sentait condamné à cette satiété qui est le malheur inévitable des hommes dont l'intelligence surpasse les moyens d'action. Et ce qui avait été autrefois l'impulsion de la passion était devenu une froide habitude. Désabusé des sens, il cherchait à s'élever à la culture de la science. Mais comme son dessein n'était pas de servir l'humanité, il méprisait tout ce qui était utile et pratique. Sa sombre imagination ne s'exerçait que sur des choses chimériques et obscures, qui font la joie des esprits pervers et solitaires et auxquels il était poussé par l'orgueil de son caractère et par les traditions mystérieuses de sa patrie. Rejetant la croyance des confuses religions du monde païen, il mettait toute sa foi dans la puissance et la sagesse. Il ignorait, oh, tout le monde l'ignorait peut-être comme lui alors, les bornes que la nature impose à nos découvertes. S'apercevant que plus nos connaissances s'élèvent, plus nous voyons de merveilles, il se figurait que non seulement la nature accomplit des miracles quotidiens, mais qu'elle pouvait, par la force cabalistique de quelques esprits supérieurs, être détourné de son cours. Il poursuivait ainsi les sciences au-delà des limites du possible, dans le champ de l'invisible et de l'infini. Les vérités de l'astronomie l'avaient conduit aux rêveries imaginaires de l'astrologie. Les expériences de la chimie l'avaient poussé dans le labyrinthe de la magie. Et lui, qui se montrait sceptique quand il s'agissait du pouvoir des dieux, il était crédule et superstitieux, dès qu'il était question du pouvoir des hommes. L'étude de la magie à laquelle s'appliquaient dans ce siècle tous ceux qui avaient des prétentions à la sagesse était surtout d'origine orientale. Elle était étrangère à la première philosophie des Grecs, n'ayant été accueillie par eux avec faveur qu'à l'époque où Euthanès, qui accompagnait l'armée de Xerxès, introduisit parmi les simples croyances d'Hellas les solennelles superstitions de Zoroastre. Rome, sous les empereurs romains, se l'était approprié, et Juvénal l'avait attaqué avec toute la violence de son esprit. Le culte d'Isis était intimement lié à la magie, et la religion égyptienne servait à étendre le goût des sciences occultes qui lui étaient naturelles. La magie théurgique ou bienfaisante, la magie goétique ou ténébreuse et la nécromancie malfaisante dominèrent également pendant le premier siècle de l'ère chrétienne, et les merveilles de Faust ne sont pas comparables à celles d'Apollonius. Les rois, les courtisans, les sages, tous tremblaient devant les professeurs de cette sombre science. Le formidable et profond Arbacès n'était pas le moins remarquable des membres de cette tribu. Sa réputation et ses découvertes étaient connues de quiconque se livrait à l'étude de la magie. Elles lui survécurent même, mais ce ne fut pas sous son nom réel que les magiciens et les sages l'honorèrent. Son nom réel, en effet, demeura ignoré en Italie, car Arbacès n'était pas une appellation égyptienne. Elle venait de la Médie, d'où elle était devenue commune à la contrée du Nil, dans le mélange et le vagabondage des anciennes races. Il y avait plusieurs raisons, non seulement d'orgueil, mais de politique. Jeune, il avait conspiré contre la majesté de Rome, qui le forçait à cacher son nom et son rang. Mais ce n'était ni par le nom qu'il avait emprunté des Mèdes, ni par celui qui, dans les collèges d'Égypte, aurait pu attester sa royale origine qu'il exerçait son influence sur ceux qui se vouaient à la magie. Il avait reçu de leurs hommages une désignation mystique, et son souvenir resta dans la Grande Grèce et dans toutes les contrées orientales sous le nom d'Hermès, seigneur de la ceinture flamboyante. Ses subtiles recherches et les attributs si vantés de sa science, recueillis en plusieurs volumes, étaient au nombre des traités sur les arts curieux que les néophytes chrétiens brûlèrent avec tant de joie que de frayeur à Éphèse, brivant la postérité des preuves de la malice du démon. La conscience d'Arbacès ne relevait que de l'esprit. Elle n'obéissait à aucune loi morale. Si l'homme imposait ce frein à la multitude, l'humanité, croyait-il, pouvait par une sagesse supérieure s'élever au-dessus de ses lois. Si, tel était son raisonnement, j'ai assez de génie pour imposer des lois, n'ai-je pas le droit de commander à mes propres créations ? N'ai-je pas le droit de contrôler, de rejeter, de mépriser les inventions d'intelligence moins fortes que la mienne ? De sorte que, s'il était un scélérat, il justifiait sa scélératesse parce qu'il aurait pu le rendre vertueux, c'est-à-dire par l'évélation de son esprit. Tous les hommes ont plus ou moins la passion du pouvoir. Cette passion, chez Arbacès, correspondait exactement à son caractère. Ce n'était pas la passion d'un pouvoir extérieur et grossier. Il ne désirait ni la pourpre, ni les faisceaux, ni les insignes d'une autorité vulgaire. Le mépris avait remplacé sa jeune ambition vaincue et détruite. Son profond dédain pour Rome, Rome dont le nom était devenu synonyme du monde, Rome qu'il regardait de la même façon qu'elle regardait les peuples barbares, ne lui permettait pas d'aspirer à des dignités, à des honneurs, car il n'a plus été alors que l'instrument ou la créature d'un empereur. Lui, le fils de la grande race de Ramsès, il aurait exécuté les ordres et reçu sa puissance d'un autre. Cette seule pensée le remplissait de rage. Mais en repoussant une ambition qui n'avait pour but que des distinctions et des titres, il ne s'en applique plus à s'emparer du cœur des hommes. Respectant le pouvoir de l'esprit comme le plus grand des bienfaits terrestres, il aimait à sentir ce pouvoir, pour ainsi dire palpable en lui-même, et l'étendait sur tous ceux qu'il rencontrait. C'est pour cela qu'il avait toujours recherché les jeunes gens, les fascinant, les gouvernant à son aise. Rien ne lui plaisait comme de trouver des âmes faites pour subir son empire invisible et immatériel. S'il avait été moins sensuel et moins riche, il aurait essayé de fonder une nouvelle religion. Tel qu'il était, son énergie était combattue par le goût des plaisirs. Outre cette vague satisfaction de sa puissance morale, vanité si chère aux sages, il éprouvait un attachement singulier et presque fantastique pour tout ce qui appartenait à la terre mystérieuse de ses ancêtres. Bien qu'il ne crût pas à ses divinités, Il croyait aux allégories qu'elle représentait, ou plutôt il interprétait ces allégories d'une façon nouvelle. Il tenait à perpétuer le culte de l'Égypte parce qu'il maintenait par ce moyen l'ombre et le souvenir de sa puissance. Il dispensait ainsi aux autels d'Osiris et d'Isis des dons véritablement royaux et se montrait toujours empressé d'attirer dans le corps de leurs prêtres des personnes riches et influentes. Les vœux prononcés, la profession faite, il choisissait pour compagnon de ses plaisirs ses victimes elles-mêmes, en partie pour s'assurer le secret et en partie pour se conserver à lui-même son propre pouvoir. Ces motifs avaient dirigé sa conduite à l'égard d'Apaïsides, non moins que sa passion pour Ionné. Il n'avait guère habité longtemps le même lieu, mais à mesure qu'il avançait en âge, il se fatiguait de changer de scène, et il était demeuré dans des délicieuses cités de la Campanie, plus qu'il n'avait coutume de le faire ailleurs, et de manière à s'étonner lui-même. À parler franchement, son orgueil mettait en quelque sorte une limite au choix de sa résidence. Ses conspirations malheureuses lui interdisaient ces brûlantes contrées qu'il regardait comme ses possessions héréditaires, contrées abattues et humiliées où planait l'aigle romaine. Rome était un objet d'indignation pour son âme pleine de haine. Il n'aimait pas avoir les courtisans rivaliser d'opulence avec lui, et ses richesses prendre un air de pauvreté en présence des magnificences qui entouraient les empereurs. Les villes de la Campanie lui offraient tout ce que sa nature désirait, la luxuriance d'un climat sans égal et tous les raffinements d'une voluptueuse civilisation. Il n'avait pas sous les yeux de fortune supérieure à la sienne. Il dépassait les riches en richesse. Les espions d'une cour jalouse ne le surveillaient pas. Tant qu'il demeurait riche, sa conduite resterait à l'abri de toute recherche. Il continuerait son sombre chemin, sans trouble et sans inquiétude. C'est un malheur des êtres abandonnés au plaisir de ne connaître l'amour que lorsque leurs sens commencent à s'émousser. Leur jeunesse s'épuise en désirs sans nombre, leurs cœurs sont bientôt blasés. Ainsi, pour toujours à la poursuite de l'amour et sollicité peut-être par une imagination sans repos à s'en exagérer les charmes, l'Égyptien avait dépensé toute la fougue de sa jeunesse sans atteindre l'objet de ses rêves. À la beauté du jour succédait la beauté du lendemain, et l'ombre du bonheur l'entraînait plutôt que le bonheur lui-même. Lorsque, 2 années avant l'époque où nous sommes, il avait vu Ionné, il avait rencontré pour la première fois celle qu'il aurait pu aimer. Il se trouvait alors à ce moment de la vie où l'homme aperçoit distinctement derrière lui sa jeunesse perdue et devant lui les ténèbres de la vieillesse. Moment qui ne manque jamais de nous inspirer le désir de nous assurer, avant qu'il ne soit trop tard, tout ce que nous avons cru nécessaire au bonheur d'une vie dont la partie la plus belle est déjà évanouie. Arbacès, avec plus d'empressement et de patience qu'il n'en avait mis à aucun de ses plaisirs, s'était occupé à conquérir le cœur d'Ionné. Il ne se contentait pas d'aimer, il désirait être aimé. Dans cette espérance, il avait surveillé la jeunesse exubérante de la belle napolitaine. Connaissant toute l'influence que l'esprit possède sur ceux qui s'appliquaient à cultiver leur esprit, il avait volontiers contribué à former le génie et à éclairer l'intelligence d'Ionné. Il se flattait qu'Ionné n'en apprécierait que mieux les titres qu'il possédait à son affection. Il l'encourageait à s'entourer des êtres légers qui lui rendaient hommage, persuadé que son âme, faite pour des idées élevées, reviendrait s'attacher à lui en le comparant aux autres. Il avait oublié que, de même que l'héliotrope se tourne vers le soleil, la jeunesse se tourne vers la jeunesse, jusqu'à ce que la jalousie que lui inspira Glaucus lui eût appris son erreur. Depuis ce moment, quoiqu'il ne connût pas, comme nous l'avons vu, toute l'étendue du danger, sa passion, longtemps retenue, avait pris une direction plus impétueuse. Rien n'allume le feu de l'amour comme l'étincelle de la jalousie. Il se sentit embrasé d'une flamme irrésistible, il cessa d'être tendre, son amour prit quelque chose de l'intensité, de la férocité, de la haine. Arbacès résolut donc de ne plus perdre de temps en préparations périlleuses et incertaines. Il voulut mettre entre lui et ses rivaux une infranchissable barrière. Il forma le dessein de posséder Ionée à tout prix, quoique, dans l'état présent de son cœur, nourri longtemps des espérances d'une passion plus pure, il ne fut pas disposé à se contenter de sa possession seulement. Il convoitait le cœur, l'âme, non moins que la beauté d'Ionée. Mais il se figura que, séparé violemment par un crime hardi du reste du genre humain, une fois attachée par un nœud qu'elle ne pourrait plus rompre, elle concentrerait en lui toutes ses pensées, qu'il pouvait compter sur son adresse pour achever sa conquête, et que, d'accord avec la morale des Romains vis-à-vis des Sabines, l'empire de la force se transformerait peu à peu en un empire plus doux. Cette résolution se trouvait encore confirmée par sa foi dans les astres. Il lui prédisait depuis longtemps pour cette année et pour le mois actuel une catastrophe qui menacerait sa vie elle-même. Cette date, certaine inévitable, le forçait d'agir. Il était donc décidé, comme un monarque, à entasser sur son bûcher tout ce que son âme avait de plus cher. Comme il le disait, s'il devait mourir, il voulait avoir vécu, et qu'Ionée fût à lui. Chapitre 9. Ce que devient Ionée dans la maison d'Arbacès, premier signe de la rage du terrible ennemi. Lorsque Ionée entra dans la vaste salle de l'Égyptien, l'effroi qui avait agité le cœur de son frère s'empara du sien. Il lui sembla, comme à lui, qu'il y avait quelque chose de mauvais augure et qu'il lui cria de prendre garde dans les figures tristes de ces monstres thébains dont le marbre rendait si bien les traits majestueux et sans passion. Leurs yeux, les temps anciens, exprimaient la pensée, l'éternité semblait en eux s'être fixée. Le grand esclave éthiopien sourit en lui ouvrant les portes et marcha devant elle pour la conduire. Elle était à peine au milieu de la salle, qu'Arbacès s'avança en habit de fête étincelant de pierreries. Quoiqu'il fît grand jour au dehors, la maison, selon la coutume des voluptueux, était plongée dans une demi-obscurité et des lampes jetaient une lumière odorante sur les riches pavés et sur les plates-fonds d'ivoire. « Belle Ionée, dit Arbacès en s'inclinant pour toucher sa main, c'est vous qui avez éclipsé le jour. Ce sont vos yeux qui éclairent cette salle. C'est votre haleine qui le remplit de parfum. » Vous ne devriez pas me parler ainsi, dit Ionée en souriant. Vous n'ignorez pas que votre sagesse a suffisamment instruit mon âme pour la mettre au-dessus de ces trop gracieux éloges. Il me déplaise. C'est vous qui m'avez appris à mépriser l'adulation. Voulez-vous donc faire oublier vos leçons à votre pupille ? Il y avait quelque chose de si franc et de si charmant dans les manières et dans les paroles d'Ionée que l'Égyptien n'en devint que plus épris d'elle et plus disposé à renouveler le tort qu'il venait de commettre. Cependant, il répondit légèrement et gaiement et se hâta de continuer la conversation sur d'autres sujets. Il la conduisit à travers les différentes chambres de sa maison, qui paraissaient aux yeux d'Ionée, accoutumée seulement aux élégances modérées des villes de la Campanie, contenir les richesses du monde. Des peintures d'un art achevé ornaient les murs. Des lumières éclairaient des statues les plus beaux temps de la Grèce. Des armoires pleines de bijoux, Chaque armoire travaillait elle-même comme un bijou, remplissait les intervalles des colonnes. Les bois les plus gracieux couronnaient les seuils et fermaient les portes. L'or et les joyaux abondaient de tous côtés. Quelquefois, Arbacès et Ionée étaient seuls dans ses chambres. Quelquefois, ils passaient au milieu d'une haie d'esclaves qui s'agenouillaient lorsqu'elle s'approchait et lui présentaient des bracelets, des chaînes, des diamants que l'Égyptien s'efforçait en vain de lui faire accepter. J'ai souvent entendu dire, reprit-elle avec étonnement, que vous étiez riche, mais j'étais loin de me douter de la valeur de vos trésors. Je voudrais les faire fondre en une seule couronne pour la placer sur votre tête, répliqua l'Égyptien. Hélas, ce poids m'écraserait, je serais une seconde Tarpeia, répondit Ionée en riant. Mais vous ne dédaignez pas les richesses, Ionée. Ceux qui ne sont pas riches ne connaissent pas ce que la vie renferme de bonheur. L'or est le grand magicien de la terre, il réalise nos songes, il nous donne le pouvoir d'un dieu. Il y a de la grandeur, de la sublimité dans sa possession. C'est le plus puissant et le plus obéissant de nos esclaves. L'artificieuse Arbacès espérait éblouir la jeune Napolitaine par ses trésors et par son éloquence. Il essayait d'éveiller en elle le désir d'être la souveraine de tout ce qu'elle voyait. Il se flattait qu'elle confondrait le possesseur avec les possessions et que les charmes de son opulence se réfléchiraient sur lui-même. Mais Ionée était secrètement mécontente des éloges qui sortaient de ses lèvres, jusqu'alors peu accoutumée en apparence à payer un tribut à la beauté. Avec un art que les femmes possèdent à merveille, elle s'efforça de déconcerter sa galanterie en n'ayant pas l'air d'y croire et en riant de ses propos comme s'il n'était qu'un jeu. Rien n'est plus aimable au monde que cette manière de se défendre. C'est le charme du nécromant africain qui se fait fort de changer la direction des vents avec une plume. L'Égyptien était enivré, plus subjugué peut-être encore que par sa grâce, que par sa beauté. Il ne contenait qu'avec peine ses émotions. Hélas, la plume n'avait de puissance que contre les brises de l'été. Elle devait être le jouet de la tempête. Aussitôt qu'ils arrivèrent dans une salle entourée de draperies blanches, à broderies d'argent, l'Égyptien frappa dans ses mains, et comme par enchantement, une table splendide se dressa devant eux, un lit ou plutôt une espèce de trône, couronné d'un dais cramoisi, s'éleva également au pied d'Ionée, et au même instant on entendit derrière les rideaux une invisible musique d'une douceur extrême. Arbacès se plaça au pied de la Napolitaine, et des enfants beaux comme l'amour servirent le festin. Après le repas, la musique s'affaiblit peu à peu, et Arbacès s'adressa ainsi à sa belle hôtesse. N'avez-vous jamais en ce monde sombre et incertain, n'avez-vous jamais, ô ma pupille, essayé de plonger vos yeux dans l'avenir? N'avez-vous jamais désiré écarter le voile de la destinée et voir dans son empire inconnu l'ombre des choses qui doivent exister? Car le passé n'est pas seul à avoir des fantômes. Chaque événement qui va se produire possède ses spectres, son ombre. Lorsque l'heure arrive, la vie entre en lui, l'ombre prend un corps et fait son apparition dans le monde. Ainsi, dans la terre, par-delà le tombeau, existent comme deux armées impalpables et spirituelles, les choses qui doivent être et les choses qui ont été. Si par notre science nous pouvons pénétrer jusqu'à cette région, nous voyons l'une et l'autre armée et nous apprenons, ainsi que je l'ai appris, non seulement les mystères de la mort, mais aussi les destinées des vivants. Comment vous l'avez appris? La science peut-elle aller jusque-là? Voulez-vous éprouver mon art et en ayez assisté à la représentation de ce qui doit vous arriver à vous-même? C'est un drame plus intéressant que ceux d'Eschyle. Je l'ai préparé pour vous, si vous désirez voir ces ombres jouer leur rôle. » La Napolitaine trembla. Elle pensa à Glaucus et soupira en frissonnant. Leur destinée devait-elle l'être unie? Moitié incrédule et moitié convaincue, frappée pour ainsi dire de respect et d'effroi en écoutant son hôte étrange, elle resta un moment silencieuse, puis répondit « Cela peut révolter, cela peut terrifier. La connaissance de l'avenir doit en tout cas empoisonner le présent. » « Non, Ioné, j'ai moi-même jeté les yeux sur votre avenir, et les ombres qui représentent vos destinées habitent les jardins de l'Élysée. Au milieu des asphodèles et des roses, ils préparent pour votre front de 12 guirlandes, et le sort, si dur pour tant d'autres, ne vous tisse que des jours de bonheur et d'amour. Voulez-vous me suivre et voir ce qui vous est réservé afin de jouir d'avance de votre félicité? » Le cœur d'Ionée murmura de nouveau « Glaucus ». Elle laissa deviner un consentement presque imperceptible. L'Égyptien se leva en la prenant par la main, la conduisit à travers la salle du banquet. Les rideaux s'ouvrirent comme par magie, et la musique fit entendre des sons plus joyeux et plus marqués. Ils passèrent entre des rangées de colonnes, aux deux côtés desquelles deux fontaines répandaient les eaux les plus parfumées. Ils descendirent dans le jardin par un large et facile escalier. La soirée commençait, la lune s'élevait déjà dans les cieux, et les douces fleurs qui dorment le jour et mêlent aux brises de la nuit d'ineffables odeurs, croissaient dans les allées ombreuses légèrement éclairées, ou bien, rassemblées en corbeilles, étaient placées comme des offrandes au pied des nombreuses statues qu'ils rencontraient à chaque pas. « Où me conduisez-vous, Arbacès ?» demanda Ionée avec un peu d'étonnement. « Ici près, répondit-il en désignant un petit édifice en perspective, à ce temple consacré aux destinées. Nos rites exigent un terrain consacré. » Ils entrèrent dans une étroite salle au bout de laquelle était suspendu un rideau noir. Arbacès l'écarta. Ionée et lui se trouvèrent dans l'obscurité. « Ne vous alarmez pas, dit l'Égyptien, la lumière ne tardera pas à briller. » Pendant qu'il parlait, une lueur douce et qui communiquait une agréable chaleur se répandit insensiblement autour d'eux. À mesure que chaque objet se détachait de l'obscurité, Ionée s'apercevait qu'elle était dans un appartement de moyenne grandeur, étendu de noir de tous les côtés. Des draperies de la même couleur recouvraient le lit préparé pour qu'on y puisse s'asseoir. Au centre de la chambre se dressait un petit autel avec un trépied de bronze. D'un côté, une haute colonne de granit était surmontée d'une tête colossale en marbre noir, dont la couronne d'épis de blé fit reconnaître à Ionée la grande déesse égyptienne. Arbacès se tenait devant l'autel sur lequel il avait déposé sa guirlande. Il semblait occupé à verser dans le trépied une liqueur renfermée dans un vase de cuivre. Tout à coup s'élança du trépied une flamme bleue, vive et irrégulière. L'Égyptien revint près d'Ionée et prononça quelques paroles dans un langage étranger. Le rideau placé derrière l'autel s'agita confusément. Il s'ouvrit avec lenteur, et par cette ouverture, Ionée aperçut vaguement un paysage qui, à mesure qu'elle regardait, accusait des formes plus distinctes. Elle découvrit clairement des arbres, des rivières, des prairies et la plus magnifique variété de la plus opulente campagne. Enfin, devant le paysage, une ombre glissa et s'arrêta devant elle. Le charme qui agissait sur le reste de la scène sembla agir également sur cette ombre. Elle s'anima, prit un corps, et Ionée reconnut ses propres traits et toute sa personne dans ce fantôme. Alors le paysage du fond s'évanouit et fit place à la représentation d'un riche palais. Un trône était au milieu de la salle. Autour du trône étaient rangées des formes d'esclaves et de gardes, et une main pâle soutenait au-dessus du trône l'apparence d'un diadème. Un nouvel acteur apparut. Il était vêtu de la tête aux pieds d'une robe noire. Sa figure était cachée. Il s'agenouilla aux pieds de l'ombre d'Ionée. Il lui prit la main, il montra le trône comme s'il l'engageait à s'y aller asseoir. Le cœur de la Napolitaine battait violemment. « Voulez-vous que l'ombre se fasse connaître ?» demanda Arbacès qui était à côté d'elle. « Oh oui !» murmura doucement Ionée. Arbacès leva la main. Le fantôme sembla écarter le manteau qui le couvrait et Ionée frémit. C'était Arbacès lui-même qui était à genoux devant elle. « Voilà ta destinée !» murmura de nouveau la voix de l'Égyptien à son oreille. « Tu seras la femme d'Arbacès !» Ionée frissonna. Le noir rideau se referma sur cette fantasmagorique et Arbacès lui-même, le vivant Arbacès, tomba aux pieds d'Ionée. « Oh Ionée, dit-il en la contemplant avec passion, écoute un homme qui depuis longtemps lutte avec son amour. Je t'adore. Les destins ne sauraient mentir. Tu seras à moi. J'ai parcouru le monde entier, je n'ai trouvé personne qui t'égala. Dès ma jeunesse, j'ai soupiré après un être comme toi. Je n'ai fait que rêver jusqu'au jour où je t'ai rencontré. Je me réveille et je te vois. Ne te détourne pas de moi, Ionée. Ne me regarde plus comme tu m'as regardé. Je ne suis pas cet être froid, insensible, morose que j'ai dû te paraître. Jamais femme n'eut un amant si dévoué, si passionné que je le suis et que je le serai toujours pour Ionée. Ne cherche pas à arracher ta main de mon étreinte. Vois, je la laisse libre. Retire-la si tu veux, soit, mais ne me repousse pas légèrement. Juge de ton pouvoir sur celui que tu as pu transformer à ce point. Moi, qui ne me suis jamais agenouillé devant un être mortel, je suis à tes pieds, moi, qui ai commandé au sort, j'attends le mien de ta bouche. Arbacès n'aura pas d'autre ambition que celle de t'obéir. Il y mettra son orgueil. Ionée, tourne les yeux de mon côté, éclaire-moi de ton sourire. Mon âme est sombre lorsque ta figure se cache à ma vue. Brille donc, ô mon soleil, mon ciel, la lumière de mes jours. Ionée, Ionée, ne rejette pas mon amour. Seul et au pouvoir de cet homme singulier et redoutable, Ionée n'éprouvait pas pourtant de terreur. Son langage respectueux, la douceur de sa voix la rassurèrent. Elle se sentait d'ailleurs protégée par sa propre pureté, mais elle était confuse, étonnée. Il lui fallut quelques moments pour qu'elle pût retrouver ses idées et répondre. « Levez-vous, Arbacès, » dit-elle enfin. Et elle se résigna à lui tendre la main, qu'elle retira promptement du reste lorsqu'elle y sentit la pression ardente de ses lèvres. Si ce que vous me dites est sérieux, si votre langage est vrai, oh, s'il est vrai, reprit-il avec tendresse, c'est bien. Écoutez-moi donc. Vous avez été mon tuteur, mon ami, mon conseiller. Je ne suis pas préparé au nouveau caractère sous lequel vous vous montrez à moi. Ne pensez pas, ajouta-t-elle vivement, en voyant l'éclair d'une sombre passion traverser ses yeux, ne pensez pas que je méprise votre amour, que je n'en suis pas touché, que je ne me trouve pas honoré de votre hommage. Mais, répondez-moi, pouvez-vous m'écouter avec calme ? Oui, tes paroles dussent-elles être la foudre à m'écraser ? J'en aime un autre, dit Ionée en rougissant, mais d'une voix assurée. Par les dieux, par les enfers, s'écria Arbacès en se relevant dans toute sa hauteur, ne me parle pas ainsi, ne te joue pas de moi, c'est impossible. Qui as-tu vu? Qui as-tu connu? Oh, Ionée, c'est un artifice de femme. Oui, une ruse féminine. Tu veux gagner du temps. Je t'ai surprise, tu as eu peur. Fais de moi ce que tu voudras, dis-moi que tu ne m'aimes pas, mais ne me dis pas que tu en aimes un autre. Hélas, soupira Ionée, et effrayée de cette violence soudaine et inattendue, elle fondit en larmes. Arbacès se rapprocha d'elle. Son haleine brûlante effleurait les joues d'Ionée. Il la saisit dans ses bras. Elle se déroba à son étreinte. Dans cette lutte, des tablettes s'échappèrent de son sein sur le pavé. Arbacès les aperçut et s'en empara. C'était la lettre qu'elle avait reçue le matin même de Glaucus. Ionée tomba sur le lit à moitié morte. Les yeux d'Arbacès parcoururent rapidement l'écrit. La Napolitaine n'osait lever les yeux sur lui. Elle n'aperçut pas la pâleur terrible qui s'est répandue sur sa figure. Elle ne remarqua pas le froncement de ses sourcils, ni le tremblement de ses lèvres, ni les convulsions de sa poitrine. Il lut la lettre tout entière, et puis, la laissant glisser de sa main, il dit, avec un calme décevant, « Est-ce l'auteur de cette lettre que tu aimes ?» Ionée soupira et ne répondit pas. « Parle !» Et ce fut un cri plutôt qu'une parole. « C'est lui, oui, c'est lui. Et son nom est écrit ici. » Son nom est Glaucus ? Ionée joignit les mains et regarda autour d'elle comme pour chercher du secours ou un moyen de fuir. Écoute-moi, dit Arbacès à voix basse, avec une sorte de murmure. Tu iras à la tombe plutôt que dans ses bras. Quoi ? Te figures-tu qu'Arbacès souffrira pour rival ce faible grec ? Quoi ? Penses-tu qu'il aura laissé mûrir le fruit pour le céder à un autre. Non, bel insensé, tu m'appartiens à moi, moi seul. Je te saisis et je te prends, voilà mes droits. » En parlant ainsi, il serra fortement Ionée contre son sein, et dans ce terrible embrassement, il y avait autant de haine que d'amour. Le désespoir donna à Ionée une force surnaturelle. Elle se délivra encore de son étreinte et courut vers l'endroit de la chambre par lequel elle était entrée. Elle en souleva le rideau, mais elle se sentit ressaisie par Arbacès. Elle s'échappa encore, puis tomba épuisée en jetant un grand cri au pied de la colonne qui surportait la tête de la déesse égyptienne. Arbacès s'arrêta comme pour reprendre haleine avant de se précipiter de nouveau sur sa proie. En ce moment, le rideau fut tiré violemment, et l'Égyptien sentit une main forte et exaspérée se poser sur son épaule. Il se retourna et vit derrière lui les yeux flamboyants de Glaucus et la pâle, morne mais menaçante figure d'Apaécides. Ah ! S'écria-t-il en les regardant l'un et l'autre, mais quelle furie vous a envoyés ici ? Athée, répondit Glaucus, et il essaya aussitôt de renverser l'Égyptien. Pendant ce temps-là, Apaécides relevait sa sœur, demeurée sans connaissance. Mais ses forces, épuisées par les longs labeurs de la pensée, ne lui suffirent pas pour l'emporter, toute légère et délicate qu'elle était. Il la posa sur le lit et se plaça devant elle, un poignard à la main, épiant la lutte de Glaucus et de l'Égyptien, et prêt à plonger son arme dans le sein d'Arbacès s'il obtenait l'avantage sur son rival. Il n'y a peut-être rien de plus terrible sur la terre que le combat de deux êtres qui n'ont d'autres armes que celles que la nature peut donner à la rage. Les deux antagonistes se tenaient étroitement embrassés, les mains de chacun d'eux cherchant la gorge de son ennemi, le visage en arrière, les yeux pleins de flammes, les muscles roidis, les veines gonflées, les lèvres entr'ouvertes, les dents serrées. Ils étaient doués l'un et l'autre d'une force extraordinaire et d'une haine égale. Ils s'étreignaient, se tordaient, se déchiraient, se poussaient ça et là dans leur étroite arène, jetaient des cris de rage et de vengeance, tantôt devant l'autel, tantôt au pied de la colonne où la lutte avait commencé. Puis ils se séparèrent pour respirer. Arbacès s'appuyant contre la colonne, Glaucus un peu plus loin. Ô déesse antique, s'écria Arbacès en levant les yeux vers l'image sacrée qu'elle supportait, protège ton élu, proclame ta vengeance contre le disciple d'une religion née après la tienne, dont la sacrilège audace profane ton sanctuaire et attaque tes serviteurs. À ces paroles, les traits jusqu'alors immobiles de la figure parurent s'animer. À travers le marbre, nu comme à travers un voile, courut une lumière rouge et brûlante. Autour de la tête, des éclairs livides se jouèrent, et ses yeux, étincelants comme des globes de feu, se fixèrent avec une expression d'indicible colère sur le grec. Étonné et épouvanté par cette soudaine et prodigieuse réponse qu'obtenait la prière de son ennemi, Glaucus, qui n'était pas exempt des superstitions héréditaires de sa race, pâlit. En présence de cette subite animation du marbre, ses genoux s'entrechoquèrent. Il demeura saisi d'une terreur religieuse, confus, éperdu, sans force devant son adversaire. Arbacès ne lui laissa pas le temps de se remettre de sa frayeur. « Meurs, misérable ! » s'écria-t-il d'une voix de tonnerre en s'élançant sur le grec. « La puissante mère te réclame comme un vivant sacrifice !» Attaqué ainsi dans le premier moment de la consternation causée par sa crainte superstitieuse, le grec perdit son équilibre. Le pavé de marbre était uni comme une glace. Il glissa, il tomba. Arbacès mit le pied sur le sein de son adversaire abattu. Apaécides, à qui sa profession sacrée, non moins que sa connaissance du caractère d'Arbacès, avait appris à se méfier de ses miraculeuses intercessions, n'avait pas partagé l'effroi de son compagnon. Il se précipita en agitant son poignard, mais l'Égyptien, sur ses gardes, arrêta son bras et arracha vigoureusement l'arme de la faible main du prêtre, qu'il renversa en même temps à ses pieds. Il brandit à son tour le poignard avec la joie du triomphe. Glaucus considérait le sort qui lui était réservé d'un air froid. Avec la résignation dédaigneuse d'un gladiateur vaincu, lorsque, en cet instant décisif, le pavé frémit sous eux d'une façon convulsive et rapide, un esprit plus puissant que celui de l'Égyptien était déchaîné, un pouvoir gigantesque devant lequel s'effaçait sa passion et ses artifices. Il s'éveillait, il se déclarait l'affreux démon des tremblements de terre, se riant à la fois des ruses de la magie et de la malice des colères humaines. Semblable aux titans sur qui sont accumulées des montagnes, il se réveillait du sommeil des ans, se mouvait sur sa couche d'angoisse, pendant que les cavernes poussaient des gémissements et s'agitaient sous le mouvement de ses membres. Au moment où Arbacès se croyait sûr de la victoire et se félicitait de sa puissance comme un demi-dieu, il retomba dans sa poussière primitive. Au loin, sous le sol, se fit entendre le roulement d'un bruit sourd. Les rideaux de la salle se tordirent comme au souffle de la tempête. L'autel s'ébranla, le trépied chancela, et au-dessus du lieu du combat, la colonne vacilla de côté et d'autre. La tête de la déesse se détacha et tomba de son piédestal, et dans le moment où l'Égyptien se baissait sur la victime pour la frapper, la masse de marbre atteignit son corps plié en deux entre les épaules et le cou. Le choc l'étendit sur le pavé comme si le coup était mortel, sans qu'il pût jeter un cri ou faire un mouvement. On eût dit qu'il était écrasé par la divinité que son impiété avait animée et invoquée. « La terre a préservé ses enfants, » dit Glaucus en se relevant. « Béni soit cette terrible convulsion, adorons la puissance des dieux !» Il aida Apaïsides à se lever et retourna ensuite le visage d'Arbacès qui paraissait inanimé. Le sang jaillissait de la bouche de l'Égyptien sur ses riches vêtements. Le corps retomba des bras de Glaucus à terre et le sang continua à se répandre sur le pavé. La terre trembla de nouveau sous les pas d'Apaïsides et de Glaucus. Ils furent contraints de se soutenir l'un l'autre. La convulsion cessa presque aussitôt. Ils ne s'arrêtèrent pas plus longtemps. Glaucus prit dans ses bras Ionée, poids léger pour lui, et ils sortirent de ce profane séjour. À peine furent-ils entrés dans le jardin, qu'ils rencontrèrent de tous côtés une troupe de femmes et d'esclaves, fuyant en groupe désordonné et dont les habits de fête contrastaient comme une moquerie avec la terreur de cette heure solennelle. Ils avaient assez de leur frayeur pour les occuper. Après 60 ans de tranquillité, ce sol brûlant et dangereux menaçait de nouveau ses habitants de leur destruction. On n'entendait qu'un cri, « Le tremblement de terre, le tremblement de terre !» Passant au milieu de cette foule sans qu'elle prît garde à eux, Apaïsides et Glaucus n'entrèrent pas dans la maison. Ils se hâtèrent de descendre une des allées du jardin, passèrent par une petite porte et au dehors retrouvèrent, assise sur un tertre ombragé par de sombres aloès, la jeune fille aveugle qu'un rayon de la lune leur fit reconnaître. Elle pleurait amèrement.